Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger Fringant.
Allô, attends. Allô. On est en direct là. C'est bon.
Non, je crois que non. On va éviter de diffuser parce qu'après il y a des gens qui nous écoutent, qui nous appellent et qui vont nous reconnaître. Donc on va rester un peu en intime. On diffuse D'accord. plus. Maintenant c'est fini.
On est la seule émission de radio qui faisait une émission en direct alors qu'on n'est pas diffusé.
Plus en détail.
Là, là. Et pendant des mois.
Et jusqu'à ma mort. En ce qui me concerne, jusqu'à ma mort. Et comment pour ce soir une émission bourrée comme d'habitude sur laquelle on reviendra tout à l'heure.
Voilà après le petit disque parce que c'est vrai qu'il y a plein de mouvements autour
ouais,
de nous.
En fait, alors par contre le petit disque. Roger m'a pas donné son disque.
Ah, bah, attends, c'est bien,
ça me permettra justement.
Non, mais voilà, comme ça vous allez pouvoir meubler et puis
ça me permettra de
présenter
dire
le
justement
morceau.
Que tout cela est de la faute à Tom.
Et non, mais Nicole en parlerait plus tard. Là, là.
Ouais, mais plus tard,
non,
c'est
mais
maintenant.
Vous connaissez la règle, un disque non calé, un disque passé.
Est-ce qu'on m'a demandé seulement mon disque?
Il fallait anticiper.
On l'a seulement même pas demandé.
De toute façon, personne.
Donc une émission bourrée, une émission tellement bourrée, même que nous sommes même là en vacances, puisque la semaine prochaine et la semaine suivante, ne vous étonnez pas si c'est de la rediff, c'est tout simplement parce que les Grignoux ne seront pas là. On sera en mission pour le Seigneur, voilà.
Enfin, pour le Seigneur, non, pour les morts, en fait.
Oui, c'est là tout ça.
Oui, mais enfin,
c'est pas drôle, là,
vous êtes reparti dans votre période mystique.
Bah, chaque fois,
oh mon Dieu,
pour la Toussaint arrive.
Seigneur Jésus.
Et ouais, on a parlé de Courmétrange, on parlera de, tout à l'heure, de François Angelier. Bref, on parlera de plein de choses dès que mon disque sera calé.
Et il est calé, votre disque.
Eh bien voilà. Vous mettez quoi sur ma programmation?
Mother's Children, Not Fair.
Bien, très bien.
Nice to you. I'd get you out your box and come to you. It's not fair. No.
Voilà, alors que les explications s'enchaînent.
Voilà, alors qu'on a une charmante jeune fille qui explique alors qu'elle est arrivée à Canal B il y a quoi?
Deux ans, trois ans, c'est ça?
Un an.
Et qui explique
à l'automne. Feignasse de Tom.
Oui, mais il y a
comment marche ce putain de système, nom de
Quand j'étais arrivé, au bout d'un an, j'étais complètement opérationnel, mais alors, au bout de 15 ans, on s'use, hein.
Oui, vous tombez dans une espèce de routine.
Ouais, c'est ça.
Voilà, comme un couple qui s'use, on va bientôt se séparer, je sens. J'irai pas à l'instance de
tout
divorce.
Tout ça, c'est le bordel. C'est... Moi, je dis, il faut se recentrer sur le sujet et parler de notre émission.
Actuelle.
Bourrée.
Oui,
bah, actuelle. Une émission bourrée, puisque ce soir, nous ne recevrons pas un sujet, mais deux sujets, puisque, les Grignoux, hyper réactifs cet après-midi, puisque nous avons réalisé une interview de monsieur François Angelier. François Angelier, qui, a conférencé, je sais pas si on peut utiliser ce terme, j'aime bien, en tout cas, moi, ce terme-là, de conférencer. Il a conférencé, donc, dans le cadre du festival Court-Métrange, sur le thème de la forêt.
Voilà.
Et on en a profité pour l'intercepter. Alors, le pauvre, malheureux, il a eu à peine le temps. Il est arrivé du train. On l'a accompagné à son hôtel. Jean-Loup l'a accompagné dans sa chambre pour être sûr qu'il s'échappe pas. Il l'a ramené. Le mec a dit, est-ce que je peux aller faire caca? On lui a dit, non.
Pas le temps.
Hop. Il a juste eu le temps de boire un petit café et il est descendu direct dans le petit hall d'accueil.
Vous l'avez pris à sec.
Voilà, je l'ai pris à sec. 20 minutes avec François Angelier. Fort intéressante, ma foi, quand les Grignoux savent aussi parler avec des gens de lettres. On sait le faire. Et dans un deuxième temps, nous recevrons Bibi. On m'a demandé de le présenter comme ça. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Qui est est-ce que c'est vous le boss de SOS Ordi 35?
C'est moi le boss.
Waouh, on a le boss de SOS Ordi 35. Et c'est vous qui nous avez contacté notre boîte mail parce que comment c'était suite à l'émission de monsieur Bionico, c'est bien
c'est
ça hein.
De My Human Kit, oui, de l'association My Human Kit. Oui.
Et donc du coup, vous aussi vous aviez envie de parler technologie, vous rappeliez vous aviez sans doute écouté l'émission sur la l'obsolescence programmée.
Oui.
Et du coup, ça tombe très bien que vous veniez parce que vous avez plein de choses à nous dire. Et voilà, l'obsolescence, on en avait parlé de manière un peu générale avec Hop, et vous, ça va être un petit peu plus précis.
Plus technique, plus dans le sujet.
Alors Roger, vous n'avez pas une imprimante à changer, vous, ces temps-ci?
Si, justement.
Attendez, on va inviter...
Alors ça a mal commencé.
SOS Ordi 35.
Ouais, mais c'est ce que j'ai dit à mon fiston parce que j'étais encore en train de faire imprimer des articles de notre rubrique tout à l'heure. Il me dit, c'est quand que tu vois le monsieur de SOS en 1835? Je dis, oui, mais là, en plus de ça, on vous a planté une heure à nous attendre dehors, à côté de la manif pour tous. Ça vous a un petit peu énervé. On est vraiment désolé. Moi qui comptais sur une remise, c'est mal parti. Mais bon, de toute façon, il va falloir que j'investisse. Bref, Bibi viendra nous parler donc de l'obsolescence programmée dans le domaine de l'informatique. Un domaine, qui concerne même Canal B, en parlant des animateurs. Par exemple, l'obsolescence programmée, il devait y avoir chez Tom doit y avoir une puce qui s'est déclenchée au bout d'un certain nombre d'années d'utilisation.
Il marche plus.
Il marche plus.
Moi, normalement, la durée moyenne de vie, c'est quoi? 7-8 ans chez les Grignoux?
L'année dernière, il a quand même mangé, la semaine dernière, du boudin noir à la pomme. En direct dans les studios. Direct non, puisque nous parlions à personne. Mais et ça va se payer.
Je trouve ça sympa, le concept de faire une émission comme ça, juste entre nous.
Ouais,
et ni diffuser, ni
la prochaine fois, on restera dans les cabanes.
Mais c'est pas pareil, parce que comme ça,
on se prend pas... micro.
Parce qu'il y a le fait de se prendre la tête avec l'émission d'après, etc.
Et en plus, on fait chier le monde. Et en plus, on fait chier le monde. Les Grignoux. Ouais, voilà. Eh ben écoutez, un petit dix, tiens, la programmation à qui? À Roger? Non, c'était déjà
Jean-Loup.
Non, normalement, c'est bloqué sur la semaine dernière. Enfin, faut revenir à l'ordre de la semaine dernière.
J'ai passé mon morceau, voilà. Donc maintenant, c'est vous.
Voilà, c'est parti. Je sais pas ce que vous avez préparé, mais
j'ai mis The Jackets avec Wasting My Time.
Ah ouais?
Ouais.
Putain. We'll be right back.
c'est maintenant devenu une habitude. Les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça, Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me virer par la violence, oh, et ça vous couperait.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Bon, rubrique à Roger.
Vous savez ce qu'elle disait, ma grand-mère? Elle disait, la merde piachée n'a plus de goût. C'est-à-dire que c'est quand je m'engueulais, par exemple, avec mon frangin ou ma frangine, et je parlais sur eux, je dis, mais la merde piachée n'a plus de goût. Vous entendez, faut arrêter. Et là, c'est un petit peu l'impression que ça me fait, parce que je vais redire des choses que j'ai dit la semaine dernière, mais qui ne sont pas passées à l'antenne. Donc ça, la merde piachée n'a plus de goût. Un goût quand même assez savoureux de voir que jour après jour, et puisque ce que je disais la semaine dernière, c'est encore plus vrai, le gars Donald Trump s'est plié pour lui. Seuls quelques médias en veine d'essayer de...
Vous l'avez dit la semaine dernière.
Bah ouais, bah oui, j'ai dit la semaine dernière.
Ça fait bizarre.
Ouais, ça fait bizarre. Bah, dites ça à votre petit. Donc du coup, effectivement, les médias essayent de dire oui, c'est tout n'est pas joué, parce qu'effectivement, il faut encore qu'ils aient un peu d'audience à vendre, quelques journaux à vendre, et quand même, ça paraît un peu plié, les attaques, les vidéos, etc. Par contre, il rebondit sur un truc beaucoup plus inquiétant lorsqu'il parle d'élections truquées. Et là, vu le niveau de ses électeurs, vu le niveau de sa campagne, on tombe pile poil avec la théorie du complot, pile poil, la théorie du complot quelle qu'elle soit, et il est malin, le Donald. Et effectivement, il arrive à gagner, il n'y a pas besoin d'être grand marabout pour le prédire, sauf que ça, du coup, il va renforcer chez les rednecks porteurs de guns le côté, vous savez, oui, de toute façon, tout ça,
la
c'est
théorie
expliqué,
du complot,
voilà, ouais, les fédéraux, tiens, ouais, moi, dès que je vois un fait, je le bute, etc. Puis effectivement, il a l'armement du Charles de Gaulle. Donc vous imaginez bien que avec ça, il peut même buter pas mal d'agents du FBI. Et ce n'est pas dit que l'élection d'Hillary, un peu comme chez nous, hein, Juppé va vraisemblablement gagner face à Marine Le Pen. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Marine est étouffée? Et voilà, donc voilà, c'est reculer pour mieux sauter.
Moi, un truc que j'ai pas dit la semaine dernière, mais que je vais dire cette semaine, vous savez qu'on a eu un alerte enlèvement apparemment très efficace, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu cette fameuse alerte enlèvement, clac, le gamin a été récupéré dans les 24 heures, voire les 48 heures, et il y a un truc, quand c'est passé, qui m'a fait sursauter, apparemment, il n'y a pas que moi, parce que ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est quand on parlait du père de race noir. Et hop, c'est vrai, le premier message, putain, je vois ça une fois, c'est rediffusé, deuxième fois, race noire. Et ce matin, en me levant, là, ils avaient changé, parce que l'alerte était toujours courante, en mettant de couleur noire, la nuance. Et apparemment, ça fait le buzz, parce que ça m'a frappé.
Oui,
moi,
parce qu'on enseigne depuis plus de 20 ans maintenant le fait que le terme de race n'existe absolument pas. Et du coup, voilà. Ah ben ça, c'est la police. Tiens, la police, je rebondis sur un truc que j'ai pas dit la semaine dernière. Ça vient, c'est tout frais, ça vient de tomber.
Et pas
57%, ouais. 57%, c'est le pourcentage, le dernier sondage, de policiers qui voteraient Front National. C'est cool.
Bah, on peut comprendre peut-être aussi, je sais pas, je vais faire l'avocat du diable, mais le côté un peu de désespérance, on leur promet des renforts partout, il y a rien qui arrive. La droite, ils en ont eu, Sarkozy a éliminé je sais plus combien de postes de gendarmes et de flics, etc.
Donc, ils vont voter extrême droite. Alors, ce qui est rigolo, c'est que...
Qu'est-ce qui reste aux gens?
Ce qui est rigolo, c'est qu'ils imaginent quand même pas qu'en votant extrême droite, ils vont vers la paix civile. Donc, du coup, moi je dis, je serai flic. Je voterai quoi? Allez, je voterai Sarko si j'ai envie de me faire encore avoir, ou alors Juppé. Mais je voterai pas Le Pen. Avec Le Pen, ça va être quoi? Des manifs partout, des radicaux qui vont faire péter des tas de trucs.
Ah, ça peut être de l'ordre organisé.
Ça m'étonnerait. Et là, effectivement, à moins qu'ils aient envie de faire encore plus d'heures supplémentaires, jusqu'à que les caisses soient définitivement vides et qu'on leur annonce qu'on puisse plus les payer. Mais si voter Marine Le Pen pour un flic, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, mais ils aiment peut-être ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Un truc qui me fait rigoler aussi. Je voulais pas trop en parler parce que, déjà, il y a la présomption d'innocence, et puis j'aime pas tirer sur les ambulances. Et puis ça, c'est un bonhomme sur lequel vous avez même pas envie de taper parce que il essuie feu, il est un peu crado. C'est le père Morandini.
Est-ce que vous parliez de Tom?
Non, Tom, on l'adore. D'ailleurs, on va profiter de son corps ce soir pour se venger de l'erreur qu'il a faite. Je voulais parler de l'affreux Morandini. Alors Morandini, c'est rigolo parce que il a tout un tas de d'accusations qui pèsent sur son dos, rapport avec des sex tapes, avec des petits gars. Il serait branché petit gars.
Tout à fait, des castings un petit peu olé olé.
Olé olé, il y a plein de plaintes, etc.
Le problème, c'est qu'elle est mineure.
Et c'est chaud pour ses fesses, sauf que ça tombe mal. Il était dans le business plan de Bolloré. Bolloré avait prévu de relancer ITD avec un trio de choc, Morandini, Morandini et Zemmour. Effectivement, Morandini-Zemmour, pardon, non pas le trio, le duo de choc, c'était le ticket gagnant de Bolloré. Sauf qu'aujourd'hui, ça passe pas. La pilule Morandini passe pas, les journalistes sont en grève. Rarissime, hein, c'est rare de voir une chaîne de télé privée avec une majorité de journalistes qui font pas leur boulot. Ce qui est rigolo, c'est que là où ça devient carrément ubuesque, c'est qu'il n'y a plus que Morandini qui fait son émission sur la chaîne, sauf que les annonceurs ne veulent pas être collés à côté de Morandini. Et donc du coup, il y a eu une réaction des annonceurs par le biais de Havas, etc., la grosse boîte qui gère les pubs, etc., qui dit non, moi je veux pas être ni avant ni après Morandini, on veut rien avoir à faire avec ce monsieur. Et du coup, j'aime bien moi quand Bolloré s'occupe de télévision, c'est un ouragan, il pète tous ses jouets ce mec-là. Canal+ perd des abonnés autant comme autant, ITV part sur un truc complètement barré où il a dit il a d'ailleurs proposé aux journalistes, hein, qui n'étaient pas contents, s'ils veulent, ils peuvent démissionner, ils ont une clause de conscience, ils veulent pas bosser à côté de Morandini, on veut bien, ils veulent pas bosser à côté de Zemmour, c'est vrai que Zemmour en tant que chroniqueur... apparemment ça plaît à Bolloré.
Ça fait de l'audience, hein,
Je sais pas si ça fait de l'audience, parce qu'il n'y a plus de télé, vous voyez, il n'y a plus de ITV, il y aura bientôt plus de Canal+. J'aime bien.
Ouais, vous avez regardé les Guignols dernièrement? Non. Je suis tombé dessus dimanche par hasard.
C'est devenu un peu pitoyable. Est-ce que vous voulez, tiens, c'est une bonne nouvelle que j'avais déjà dit la semaine dernière. Mes rapports à tous les pourris, au moins, ça c'est une nouvelle qui est rigolote. C'est une nana qui avait publié une petite vidéo dans lequel elle gueulait sur les positions de Marion Maréchal Le Pen en PACA lorsqu'elle disait que si elle était élue à la présidence de la région PACA, une région dont elle connaît même pas le nombre d'administrés, c'est ce qu'on a su plus tard, elle supprimerait les subventions au planning familial. Et ça avait fait bondir Claire Fettgr, c'est dur à dire, GRR, qui avait publié donc une petite vidéo où elle dénonçait ce projet de Marion Maréchal Le Pen. Ça lui avait valu des tas de mails d'encouragement et aussi toute une série de messages d'insultes abominables. On faisait référence justement au fait qu'elle soit une femme pour la traîner dans la bouillasse. Bref, elle les a mis de côté parce qu'elle dit ça c'est assez rude, quoi. On peut dire on s'en fout, mais en même temps, tu prends ça dans la gueule. Et elle s'est dit, pour exorciser ce qu'elle avait pris dans la gueule avec tous ces mails haineux, c'est dur à dire aussi des mails haineux, elle les a publiés avec le concours du, justement, planning familial. Et c'est un succès. Du coup, ce bouquin-là a fait fortune, et du coup, elle a réussi à en vendre à hauteur de 14 000 euros. Et 14 000 euros de bénéfices qui seront reversés au planning familial. Yes. Bravo Claire, je vais pas dire ton nom parce que c'est beaucoup trop dur, mais moi je dis que c'est très bien comment transformer la merde en or. Si elle avait encore d'autres méthodes dans l'industrie ou dans la... vous savez, c'est un peu ce qu'ils font dans l'agroalimentaire. Mais ils sont pas aussi, sur la même ligne de pensée que Claire. Voilà.
On s'écoute un petit disque. Yep. Voilà. De la,
programmation à petit.
Ouais. Allez, c'est parti.
Looks like the cops and hoes.
les B et les D, ça se ressemble.
Voilà. Eh bien, maintenant, allez, hop, on boucle vite avec la semaine des Grignoux, parce qu'on a quand même une émission bourrée. Tiens, c'est un truc qui m'a fait bien rigoler. C'est la nouvelle réglementation sur les zones non traitées ou ZNT. C'est-à-dire que on essaye de dire aux agriculteurs, c'est dur à dire, il ne faut pas arroser jusqu'au ras du mur du voisin, parce que sinon, effectivement, il a peut-être pas envie de bouffer des pesticides dans son cocktail à 20h du soir. Et ça les embête, parce qu'ils disent, écoutez, si on enlève 10 mètres d'un côté, 10 mètres de l'autre, 10 mètres de machin, ça commence à faire beaucoup de terre. Oui. Et ben du coup, vous savez ce que je vais faire quand il y a une haie? Et ben je vais la péter. Comme ça, il n'y a plus de haie, puisque j'ai plus le droit d'arroser à côté des haies, je pète la haie. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les voisins? Ils vont raser les voisins? Je sais pas, moi. Il faudrait quand même que ces gens-là aussi réfléchissent. Moi, je veux bien qu'on puisse dire on va me supprimer de la surface agricole utile. Mais j'aimerais mieux les voir se battre, par exemple, alors qu'il y a des projets immobiliers pourris qui grignotent effectivement de manière plus concrète sur la surface agricole utile, plutôt que sur les 10 qui servent quand même à protéger l'environnement, et par là même, à long terme, aussi leur culture. Voilà. Mais ça semble pas être à l'ordre du jour. Alors c'est qui râle, ça va être toujours. Voilà, c'est la FNSEA.
Mais et ça vous fait rire comme nouvelle. Alors j'imagine là vous êtes peut-être pour le faire pleurer.
Il y a une nouvelle qui, comment dirais-je, la semaine dernière, non, il y a 15 jours, je vous annonçais qu'un prêtre en plein enterrement, pouf, il était tombé raide mort. On vous dit pourquoi vous avez dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas, j'avais trouvé la nouvelle un peu cocasse en plein enterrement. Pouf, le curé qui meurt. Eh bien là, à Morlaix, la semaine dernière, serait-ce une épidémie? Allez savoir, un truc honte de Martien.
Ils ont 97 ans de moyenne d'âge.
Non, beaucoup plus jeune celui-là. Vous savez ce qu'il a fait à Morlaix, dans une chapelle? Il fait une messe. À côté, vous savez, Morlaix, il y a plein de, une ville qui est encaissée entre deux collines et il y a des viaducs. Et il y a une chapelle à côté du viaduc. Il fait la messe. Selon les témoins, il aurait fait une messe un peu bâclée, tenu des propos plus ou moins inintelligible, et à la fin de la messe, il enlève sa robe de curé, et il court, il se précipite, il sort de l'église, et il va se jeter devant ses ouailles du haut du pont.
Et il était sous, c'est ça?
J'en sais rien. Le plus terrible pour lui, le plus terrible pour lui, c'est que quelque part, son créateur n'en a pas voulu, il est tombé sur des bosquets, et il a survécu.
Peut-être qu'il va être béatifié.
J'en sais rien, mais peut-être parce que, allez savoir, peut-être qu'il était, pourquoi on va se tuer, pourquoi, j'en sais rien.
Ouais, peut-être qu'il voulait faire, vous savez, la spécialité où on plane dans les airs, il s'est pris pour,
Peut-être serait-ce, est-ce que, je vais voir si toutes les semaines je vous trouve un curé qui meurt, comme ça, en pleine cérémonie, moi je vous parle de, il y a quelque chose de louche.
Évidemment, un par semaine, je pense, au minimum.
Oui, mais en pleine cérémonie, vous imaginez, votre mère, elle va à la messe, elle voit le curé qui sort, ma mère, elle s'en remettrait jamais. SOS Racisme et le PCF, entre autres, avaient appelé à un rassemblement citoyen à Béziers en marge du conseil municipal pour dire stop aux provocations de la municipalité dirigée par Robert Ménard, élu avec le soutien du FN. Vous savez, j'en avais parlé la semaine dernière durant cette émission qui n'a pas été diffusée. C'est-à-dire qu'il avait, il a collé des affiches partout dans la ville. Des affiches assez flippantes. Vous savez, c'est des dessins à l'ancienne, façon Vichy, années 40, et pas des photos. Et on voit des hordes de basanés avec des foulards et tout. Et en arrière plan, on voit la cathédrale, le clocher de la cathédrale de Béziers, c'est marqué « Ils arrivent » et tout. Donc du coup, effectivement,
ils arrivent.
Et tout ça parce qu'effectivement, on veut leur imposer 40 places de plus. Il passerait de 50 places de plus, il passerait de 40 à 90. La ville de Béziers ne peut pas supporter 90 migrants.
Ils sont combien? 150 à Béziers? 200?
Non, allez,
à peu près, on peut comprendre.
Et c'est assez incroyable. C'est que, à l'heure actuelle, je trouve que la réaction de l'État est un peu molle. Mais il paraîtrait qu'une enquête doit déterminer si des faits, donc les affiches, sont constitutives de l'infraction de provocation à la discrimination ou à la haine raciale. C'est quoi d'autre des affiches qui sortent directement de l'imaginaire de Vichy? Faut pas déconner. Je veux dire, si ça, c'est pas de l'incitation à la haine, si ça, c'est pas de l'incitation à l'émeute, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que moi, quand je vois les flics voter FN, je comprends pas.
Ouais, mais on va attendre ce que va dire l'enquête.
Déjà, ça bastonne dans le conseil municipal. Alors, c'était rigolo parce que, je sais pas pourquoi, tout me fait rire en ce moment, ou alors parce qu'il faudrait, je vais pas m'amuser à pleurer tout le temps, et on voyait justement les policiers municipaux de Béziers à qui la police nationale prêtait main forte pour chasser SOS Racisme et le PCF. Eh ben voilà. Un petit X pour voilà, remonter ouais. le moral. Et c'est ma programmation, après. Je crois.
Bah, oui, c'est ça, avec The Neanderthal Jungle le Zombie.
Neanderthals, un petit garage.
Ça, allez. c'est une race.
Ouais.
C'est
2 minutes 39.
2 minutes 39, c'est bien, il a fait les efforts.
Ouais, j'ai fait les efforts.
Atmosphère! Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère?
Et mes seins, tu les aimes, mes seins? Et mon cul, tu l'aimes aussi?
You fuck my fucking wife?
Je suis ton père. J'aime l'odeur du napalm sur la rizière.
Et son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un Z, qui veut dire Zorro.
Bond. My name is Bond. James Bond.
I fuck my wife!
Mon précieux, le joufflu, il sait le joufflu, il est mauvais.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Et c'est la rubrique cinéma.
Eh bien voilà, nous sommes dans les salons d'accueil de l'hôtel Ibis, Rennes, en compagnie de Jean-Loup, bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes également en compagnie de Monsieur François Angelier, bonjour.
Bonjour.
Et également de Géraldine, grâce à qui on n'aurait jamais pu réaliser son entretien, cet entretien, et on tient d'ailleurs par ailleurs à la remercier. Voilà, Géraldine qui est attachée de presse pour le festival Court-Métrange, voilà. Jean-Loup, à vous l'honneur.
Bah justement, pour vous présenter, comment vous êtes tombé dans la marmite dite du mauvais genre?
C'est une tradition familiale. J'avais un père qui était passionné par le surréalisme, la cinéphilie sous toutes ses formes, qui était vice-président d'un ciné-club et qui notamment s'intéressait beaucoup au cinéma expressionniste allemand, au film noir américain. Et au cinéma fantastique sous toutes ses formes, de même qu'à la bande dessinée. Donc si vous voulez, pour moi, le mauvais genre, c'est-à-dire la culture de genre sous ses formes les plus variées, ça fait partie de la culture familiale. Donc ça n'a jamais été en aucun cas une forme de révolte, une forme de sécession, d'insurrection ou de marginalité. C'est plutôt quand je pense à tout cet univers, que ce soit, je sais pas moi, Topor, Belmer, cinéma, le cinéma noir américain, Huston et autres, je pense plutôt à mon père. Donc vous voyez, c'est plutôt référencé famille.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas opposition ? Est-ce que le mauvais genre, ce n'est pas justement par opposition au bon genre, c'est-à-dire une espèce de genre destiné aux élites, et le mauvais genre qui serait un genre plus populaire ? Est-ce que c'est ça ?
Non, c'est pas ce clivage que je donnerais. Il y a du mauvais genre partout. Ça concerne aussi bien, je dirais, la bande dessinée pour adultes qui était tirée à milliers d'exemplaires et lue dans les, je sais pas moi,
chez les militaires,
services militaires ou autres, que je dirais de l'architecture officielle. Donc c'est le mauvais genre, c'est plus une vibration, un sentiment, une sorte d'impression, d'un miasme, vous voyez, ça tient plus du sentiment de l'angoisse. Ça peut se confondre avec une certaine forme d'angoisse, le mauvais genre. Uh-huh. Donc ça n'est pas limité à une classe sociale, à une orientation idéologique ou un type de produit. C'est un sentiment, donc ça peut toucher tout le monde.
D'accord.
C'est ça qui est intéressant d'ailleurs.
Alors quand on a lu votre bio avec Jean-Loup, on était sacrément impressionné par le nombre de casquettes que vous portez. Oui. Vous êtes donc producteur et journaliste de l'émission Mauvais Genre depuis 1991 sur France Culture.
Alors 91, je l'avais créé sur la grille d'été avec deux autres complices, ça a duré 3 ans. Et je l'ai refondé en 97, depuis on fêtera nos 20 ans. En octobre de l'année prochaine.
D'accord, une émission qui a lieu tous les samedis soirs.
Voilà, c'est le samedi soir, ça dure 1 heure, avant ça durait 2 heures, ça a été le mardi. C'est une émission qui a changé de jour, qui a changé d'heure de diffusion, qui a changé de durée. Une émission assez plastique, assez émouvante, et émouvante je l'espère. Voilà, c'est une sorte de protoplasme qui se déplace sur la grille de France Culture.
J'ai cru comprendre que sur France Inter, sur la chaîne publique, comme la radio publique, vous êtes aussi soumis aux aléas parfois politiques. Il y a des émissions comme ça, suivant les patrons de la chaîne qui changent. Non, pas vous.
Mauvais Jean est un petit peu exempt de ce genre de problème. En 20 ans, j'ai jamais subi la moindre pression, le moindre correctif, la moindre censure. Ce qui fait que je pense qu'on est rentré dans le paysage.
D'accord. Donc, producteur et journaliste de l'émission Mauvais Genre, vous êtes également chroniqueur ciné sur Canal+.
Oui, je participe au Cercle de temps en temps. J'en suis pas un des piliers. Je laisse ça à mon collègue et ami Philippe Rouillet. Mais j'y participe de temps en temps.
Vous êtes également directeur de collection, une collection qui aborde le thème de la religion.
Oui, alors c'est un autre volet de mes activités, de mes goûts, c'est tout ce qui concerne le surnaturel et la spiritualité mystique chrétienne. Donc je m'occupe d'une collection aux éditions Jérôme Millon à Grenoble qui s'appelle Golgotha. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté.
Célèbre colline qui fut fatale au Christ, si mes souvenirs de catéchisme sont bons.
Ils le sont.
Et parmi toutes ces casquettes, y en a-t-il une que vous préférez porter plutôt que toutes les autres ? Parce que vous êtes aussi conférencier, comme ce soir, par exemple.
Ah non, l'intérêt, c'est qu'elles soient toutes là en même temps, et que je passe de l'une à l'autre, que j'enlève les casquettes pendant la conférence, je change de casquette pendant la conférence. Alors ce qui est intéressant, et ce qui est à mon avis profondément mauvais genre, c'est de brasser justement ce qui d'habitude est considéré comme antithétique ou contradictoire. C'est-à-dire citer Bernanos à propos de la Hammer, citer, je ne sais rien moi, Paul Claudel au moment avec le film d'aventure. Vous voyez, l'idée c'est le brassage qui est intéressant. Donc il n'y a pas véritablement de préférence, ou alors c'est selon l'humeur, l'énergie, et voilà.
Vous avez le temps de dormir quand même ?
Assez peu, puisque j'ai une chronique à 6h25 du matin, donc je dors peu, mais je dors.
Alors, en préparant cette interview, pardon, on a découvert que vous aviez écrit sur François de Sales, et puis merci Wikipédia.
Oui.
J'ai regardé François de Sales. Tiens, pourquoi François de Sales ? Rien à voir avec Saint François d'Assise.
Non.
François de Sales, lui, c'est donc un religieux du XVIIe siècle.
Début
du XVIIe siècle, qui est considéré comme le saint patron des journalistes.
Oui, tout à fait. Pour une raison simple, c'est que il est contemporain d'une époque où le Rome avait beaucoup subi, disons, et beaucoup perdu de plumes dans l'affaire de la réforme. Le protestantisme et la réforme luthérienne avaient fait beaucoup perdre de parts de marché, si je dirais, en Europe, à la catholicité romaine. Donc il fallait reconquérir, et François de Sales a fait partie de ces reconquérants. et notamment dans une région qui était au sud du lac Léman, qui s'appelait le Bugey. C'était un bastion protestant, on lui avait dit, mais opérer dans cette région, genre de missionnaire. Ah. Et alors, il essayait de contacter, de dialoguer, d'échanger, ce qui était très difficile, puisque les portes se fermaient. Donc, il glissait. Il avait créé une sorte de petit journal, un fanzine pieux catholique en terre protestante. Et alors, comme les portes étaient fermées, il glissait ses feuillets sous les portes. C'est une forme de journalisme, et c'est donc à lui qu'on a remis la palme du saint patron des journalistes. Ah. Ce qui est assez étrange. Je pense que d'autres auraient pu la recevoir.
Et qu'est-ce qui
communiquant, en tout cas.
Qu'est-ce qui vous a plu chez lui, justement, cet aspect l'écrivain.
C'est le plus grand écrivain français entre Montaigne et Pascal. Et c'est une langue extraordinaire. Je veux dire, c'est de l'archimboldo. Vous voyez, ça ruisselle de miel, de fruits rouges. C'est tout à fait délicieux. C'est le plaisir de lecture. Ça, c'est très littéraire.
Alors, vous avez une culture catholique.
Oui, de formation, oui. Ah. Et d'orientation.
Et d'orientation. Est-ce qu'il n'y a pas, parfois, dans les genres que vous exploitez, dont vous promotionnez parfois la qualité, quand ça vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté, justement, entre cet esprit catholique? Enfin, nous, vu d'extérieur, on a d'un côté le catholicisme, la religion, on a les manifs pour tous, etc. Même à Rennes, terre de gauche, pourtant, Dieu sait, si c'est une terre de gauche, on a eu les grosses, grosses manifs pour tous, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, là, justement, entre cet aspect respect de la religion, on va dire, ou comment affinité avec la religion, et le fait que la religion soit justement celle qui crée les mauvais gens, quelque part, qui rejette un petit peu pas mal de choses, notamment l'érotisme, etc.
C'est-à-dire que, là encore, il y a un mauvais genre catholique. Je considère que la mystique, l'expérience mystique, sous sa forme la plus radicale et la plus incandescente, est totalement mauvais genre, au point même qu'elle a été marginalisée, voire surveillée, voire contestée et même persécutée par l'Église officielle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est genre l'esprit mauvais genre, je le trouve à peu près partout, et je pense que chez certaines stigmatisées ou chez certaines visionnaires, il y a autant de mauvais genre que chez certaines actrices. Et je vous dis ça non pas par besoin d'essayer de tout faire tenir dans la même valise, mais c'est vraiment un sentiment personnel. Je veux dire, je crois que là encore, le mauvais genre se trouve à peu près partout. C'est une affaire de
sensibilité.
Voilà, c'est ça. En tout cas, la morale, non. D'une part, moi, je m'occupe de cette émission, donc j'assume totalement la nature de ces programmes et de ces sujets. Mais non, il n'y a jamais de on n'en est plus là. Il y a encore le sens du péché a beaucoup fait pour le mauvais genre, mais bon. Et là, il est en régression. Donc.
Le mysticisme a été rechassé par l'Église officielle, on va dire un peu à la façon des soufis que l'on trouve en Turquie, qui sont mal vus par
tout à fait, tout à fait. C'est encore plus accentué, je crois, en certaines, en islam. Ah.
Wait down and tell the people about the mythical days coming your way.
Alors, vous êtes également, parmi toutes vos casquettes, le président d'un prix, le prix Mauvais Genre.
Ça, c'est terminé.
C'est terminé.
Il y a eu deux éditions, mais pour l'instant, ça a été suspendu.
Ah, c'était le dernier prix, était remis en 2015, voilà, avec Jean-Pierre Dionnet comme président.
Voilà, oui.
Ah, pourquoi c'est terminé, du coup, sans indication?
C'est une affaire d'opportunité, d'organisation et de temps, quoi, surtout.
Ah, trop compliqué.
Voilà.
Ah. Jean-Loup. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots, justement, sur cette conférence-là? Parce que, donc, on a lu votre texte, là. C'est vous qui avez réalisé le texte de présentation de la conférence.
Oui, oui. Très dense, comme texte.
Et du coup, avec Jean-Loup, on s'est demandé si la forêt, pour vous, c'était pas une sorte de métaphore, un peu comme pourrait l'être la... Pour moi, la ville, par exemple, comme le lieu, un lieu où on va pouvoir passer à l'âge adulte, où on va pouvoir faire certaines expériences, où on va pouvoir faire des choses qu'on ne ferait pas dans un milieu dit normal ou plus normalisé. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la forêt ?
C'est-à-dire que moi, la forêt qui m'intéresse, c'est évidemment pas la forêt d'exploitation et de consommation où on peut couper du bois, chasser ou faire de la cueillette. Ça n'est pas non plus la forêt légendaire avec son peuple d'elfes, de lutins, de fées, de sorciers. Quoique c'est intéressant, mais c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une troisième forme de forêt. Ça n'est pas non plus la forêt du saint et de l'ermite, qui est une forêt de rédemption non plus. On cherche la rédemption et voilà. C'est une forêt où l'on va presque par mégarde. C'est la forêt, par exemple, des héroïnes du roman gothique anglais, notamment ceux d'Anne Radcliffe dont je vais parler, qui se retrouvent perdues dans la forêt. Ce qui m'intéresse dans la forêt, c'est que c'est un espace de perte, d'abîme, de chute et d'égarement. C'est l'égarement au double sens du mot, physique et mental. Et donc ça, c'est présent dans le roman gothique anglais, la forêt en étant un des éléments importants. Également, je vais parler de Julien Gracq, un homme de l'Ouest, à propos du château d'Argol, où là aussi la forêt est le lieu, par sa capacité à créer brusquement des surprises, des décors insolites, de perturber les perspectives, de dépraver les perspectives. Là aussi, il y a une forêt qui m'intéresse, et puis Huysmans, la forêt de Gilles de Rais dans là-bas, où Gilles de Rais, aux confins même étant arrivé, je dirais peut-être au bout de son orgie criminelle, est totalement sort de son château et commence à errer dans la forêt. La forêt se transforme. Il y avait une sorte de gigantesque métaphore pornographique où tous les arbres deviennent des créatures. Enfin, et ça amène au quatrième temps de mon exposé, qui est donc Georges Bataille. Georges Bataille qui avait créé à la fin des années 36-39 une société secrète qui s'appelait Acéphale, dont le cœur, je dirais, était une sorte de célébration ésotérique dans la forêt de Marly, devant un chêne foudroyé. Et là, donc, ce qui m'intéresse, c'est de suivre cette image de la forêt comme lieu d'initiation et d'égarement depuis le roman gothique anglais de la fin du 18e jusqu'à la période qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il y a là, je ne dis pas une tradition consciente, mais un enchaînement possible.
Est-ce que c'est pas justement la forêt, le fait qu'on ait des soucis avec cette forêt, peut-être parce que c'est, je sais pas moi, j'ai toujours eu l'impression que l'homme voulait toujours s'extraire de son côté animal et qu'en détruisant les forêts, justement, ça contribuait à pouvoir effacer des zones qu'il ne contrôlait pas, justement.
Disons que la destruction de la forêt, la forêt permet la possibilité de renouer avec l'archaïsme, avec une sorte de bestialité ou d'animalité fondamentale. On va le voir avec Gilles de Rais et avec Bataille. Ce qu'il aimait dans la forêt, c'était ça, c'est-à-dire que la forêt, ça, on sortait des villes et qu'on accédait à quelque chose qui soit de l'ordre du tuf premier, enfin je veux dire de la strate première de l'homme. C'est-à-dire, on n'était plus. C'était lié à sa société secrète dont il avait là, qui aujourd'hui est bien connue, s'appelait Acéphale. Donc c'est l'homme privé de chef, privé de tête. C'est l'homme qui retrouve une espèce d'énergie chtonienne, inspirée de Nietzsche et du Marquis de Sade. Et la forêt est l'espace idéal pour ce type de pratique. Ça peut pas se faire en ville ou alors dans des endroits un peu calfeutrés et tout ça. Ça peut difficilement se faire en sommet des montagnes. La forêt est parfaite pour ça.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui, effectivement, les gens continuent à justement voir la forêt? Maintenant, j'ai l'impression que la forêt est devenue un parc de loisirs, justement. On continue à l'exploiter d'une différente façon.
C'est une forme d'asservissement, c'est-à-dire qu'on la transforme en... On en fait un jardin. voilà. Ce qui était intéressant dans la forêt, c'est que c'était tout sauf un jardin. Ouais. On s'échappait du jardin à la française, voire à l'anglais, c'est-à-dire un lieu orthonormé, contrôlé. On contrôlait ce qui y poussait, comment ça y poussait, comment on circulait au milieu de tout ça. Donc c'était un endroit qui était vraiment celui du roi, le roi du maître. C'était un lieu de maîtrise et de domination, le jardin. Ah. Alors après, en transformant la forêt en jardin, on la dénature. Et la nature même de la forêt, c'est sa sauvagerie, c'est son imprévision, c'est sa bizarrerie. Donc si on met la forêt avec des flèches partout et un contrôle excessif, c'est plus la forêt.
Ah, je trouve toujours trouvé, moi, que vous savez, au Moyen-Âge, avec ce symbole des moines défricheurs, là, qui pétait la forêt, j'avais l'impression...
Oui, à l'époque, la forêt recouvrait littéralement... si on voulait se faire un petit coin à soi...
Il fallait abattre un peu. Mais même si aujourd'hui, paradoxalement, il y a plus de forêt aujourd'hui...
Mais chez les moines, c'était un acte économique doublé d'un acte politique, doublé d'un acte religieux. Acte économique, parce que bon, il fallait un peu... fallait s'installer, donc il fallait... La forêt fournissait de quoi vivre, de survivre. Un acte politique, ils installaient les couvents, les monastères, ils prenaient possession du terrain. Et un acte religieux, la forêt étant de nature païenne, abattre un arbre, c'était abattre une idole, c'était abattre une créature antéchrétienne, donc maléfique. Donc effectivement, le défrichage, on défrichait les têtes en même temps que
On ordonnait les esprits de la même manière qu'on voulait ordonner
les
arbres.
Mais les moines étaient, c'est une forme d'héroïsme à sa façon. C'est vrai qu'à l'époque, la forêt était considérable.
Jean-Loup.
Non, mais justement, cette notion de forêt, moi, ça me rappelle un petit peu, vous savez, les contes de fées. Ça commence toujours dans des forêts sombres et obscures, et ça se termine toujours par la lumière, quelque part, symbolisée, je sais pas, par un mariage pour les contes de fées, ou autres.
Donc là, l'intérêt là, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ça commence dans la nuit et que ça se termine dans l'obscurité. C'est-à-dire que
tous les contes de fées se terminent pas bien, forcément.
Il n'y a pas doré. Oui, c'est ce qu'on appelle l'oré. Il n'y a pas doré. On s'engage dans un parcours qui ne va nulle part, si ce n'est vers de plus en plus de nuit et d'obscurité.
Quels sont les auteurs contemporains qui, aujourd'hui, seraient le plus proche de cette vision de la forêt que vous avez?
Il y a eu des auteurs de fantasy, par exemple, qui s'appelait Robert Charles Wilson, je ne vais pas dire de bêtises, La forêt des Mitago. Je manque d'exemples, là, mais effectivement, il faudrait des auteurs qui renouent avec ce qu'on appelait le wilderness, c'est-à-dire... une sorte de sauvagerie. C'est plus au cinéma, je pense, à des gens comme le Blair Witch. Blair Witch était basé là-dessus.
Ouais, le projet Blair Witch,
Et puis même Providence, d'une certaine façon. Pas Providence, Délivrance.
Délivrance, les gens qui descendent en rivière.
Dans le bayou, il y a tout un... Et puis tous les films, je dirais, de survival, d'expédition... au départ, bien, on suit un chemin de grande randonnée, puis on termine. The Discount, par exemple. Voyez. Mais en littérature, j'ai pas d'exemple en tête.
D'exemple, d'auteur récent, c'est quand même une... Parce que à travers, dans le Tolkien aussi, on voit à un moment donné, les arbres se vengent de l'espèce de mage.
Ça nous ramène avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais. Et justement, moi je me suis peut-être trompé, mais vous qui êtes un littéraire, vous allez pouvoir me dire, mais j'avais l'impression que Tolkien, à travers cette vengeance des arbres, cherchait justement à peut-être dénoncer cette révolution industrielle qu'il avait vue se développer.
Sûrement, mais ça c'est à l'arrière-plan de toute la littérature de fantasy. Autant le polar est urbain et contemporain de la révolution industrielle, autant la fantasy cherche à renouer avec un monde englouti. Et c'est sûr que Tolkien, c'est un savant linguiste d'Oxford, et la véritable héroïne des romans de Tolkien, c'est la langue. Mais il y a quand même derrière tout cela une volonté de retrouver un autre monde et des racines un peu enfouies et oublié.
Alors dans la littérature populaire justement, il y a l'image et la bande dessinée, mais dans votre bio j'ai lu que vous parliez du manga, mais il n'y avait pas de référence sur la BD franco-belge. Vous préférez le manga à la BD franco-belge ou
non? Pas du tout. Moi je suis. C'est une lacune dans votre bio. J'ai pas de préférence au sens je reçois beaucoup de je me suis au courant de la production et à l'intérieur je pique. Donc j'ai beaucoup lu de manga, j'en lis beaucoup moins, et de temps en temps j'y retrouve justement toujours un peu guidé, orienté, ma boussole étant en mauvais genre, c'est qui indique le nord maléfique et non pas le nord magnétique. J'essaie de trouver des choses. Là dernièrement j'ai fait une chronique sur Jérémy Bastian, la fille maudite du capitaine pirate, une extraordinaire bande dessinée américaine d'une virtuosité sidérante, un grouillement de formes, d'éléments de décor, de personnages, une espèce de truc hallucinant. Donc vous voyez, par exemple ça, je prends ça, je peux m'intéresser le lendemain à Marc-Antoine Mathieu qui est danger, lui.
Oui, Marc-Antoine Mathieu, c'est pointu avec voilà, le processus,
qui lui
etc.
est une espèce de sorcier à sa manière.
Ah, c'est clair.
Mais non pas un sorcier dans les bois, mais un sorcier avec un pied à coulisses, et qui vous emmène dans des choses de labyrinthes visuels et mentaux totalement délirants. Oui, bon, moi, tout est possible.
Et est-ce que le fil rouge, et on terminera là-dessus, parce que l'heure tourne, et puis vous avez encore plein de choses à faire, mais notamment votre conférence à préparer, est-ce que Charles Burns, par exemple, fait partie du mauvais genre ?
Oui, totalement.
Moi, Charles Burns, c'est quelqu'un qui me fait très
Charles
peur,
Burns,
qui m'inquiète.
Charles Burns, c'est tout à fait dans l'esprit de ce dont je vais parler ce soir. C'est-à-dire une noirceur, une singularité, puis là, cette capacité de rendre inquiétant un bourgeon, un caillou, une petite racine, ça c'est... Il y a l'équivalent français de Charles Burns, pour moi c'est Ludovic de Burn, qui est un formidable dessinateur, qui excelle justement dans cette idée, dans cette capacité à plonger l'angoisse, à rendre angoissant un bouton de porte.
Très bien, bah, écoutez, on vous remercie parce que je vois l'heure file et comme il est déjà 17h15 et vous devez aller régler vos micros, je pense qu'ils sont...
Ça prend pas une heure.
Oh, vous savez, à Canal B, ça prend 5 minutes, mais maintenant...
un peu plus longtemps, en général.
On vous remercie beaucoup, monsieur Angeli, on vous souhaite
merci
bon courage.
Merci à vous et longue vie.
Et merci et bon séjour.
Canal B.
Merci et longue vie, justement, à Mauvais Genre également.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Bientôt.
Confesser au curé ces temps-ci? Ben non. À moins faut que j'y aille. Et j'ai raconté partout que les grignoux étaient vachement balèzes en sciences et techniques. Ah ouais alors? Ben c'est un super gros mensonge. Sciences et techniques par les ingénieurs grignoux, voilà. Enfin, ouais. On dira ce qu'on veut, mais voilà.
What? Voilà, puisque ce soir nous recevons Bibi, bonsoir.
Bibi, bonsoir. Et pas Didi, comme bah oui, vous savez.
Vous l'aviez compris.
Oui, mais dyslexie, le 2 et le 2, ça se confond.
Moi je le présentais en début d'émission, mais non, c'est Didi. Non, c'est Bibi et il est costaud, donc il est pas là pour rigoler. En tout cas, ça nous fait bien plaisir puisque vous avez réagi vous sur le mail des Green News suite à l'émission
de Bionico.
Voilà, Monsieur Bionico, et vous souhaitiez intervenir puisque effectivement avec Monsieur Bionico, enfin, c'était pas vraiment le thème du débat hein, puisque là on était plus sur le Fab Lab et cette main bionique formidable là qu'on a eu devant les yeux, on avait l'impression d'être avec l'homme qui valait 3 milliards. Impressionnant. Et du coup, vous avez écouté cette émission et cette autre émission également que nous avions réalisée à propos de l'obsolescence programmée, puisque nous recevions Hop, Halte à l'obsolescence programmée, une association nationale, je crois, qui se bat contre l'obsolescence programmée. Et il se trouve que vous, au sein de votre entreprise dont vous êtes le responsable, je dis pas de bêtises.
Pas de bêtises.
Voilà. Eh bien, qui s'appelle SES Ordi 35, qui est situé 35 rue du Manoir de Sévigné à Rennes, c'est-à-dire à côté, pour les gens qui connaissent un peu, du jardin moderne.
Voilà. C'est ça.
Vous avez de la chance parce que pour trouver quelque chose dans la zone, c'est toujours pourri. Mais au moins, le jardin moderne, c'est un repère. Juste à côté, vous êtes en face.
On est à côté du Soccer Rennais, le nouveau Soccer Rennais, et on est en face de Chaplin.
D'accord. Oui.
Tout le monde connaît Chaplin.
Soccer, pour traduire à Roger, c'est on joue au foot en salle.
Voilà. Je le sais, je te ferai dire. Ça n'a rien à voir avec.
C'est jamais,
C'est pas des voitures qui tournent.
Bref, en deux mots, Bibi, c'est quoi votre parcours, en fait? Comment,
vous en êtes arrivé?
Vous êtes chef d'entreprise, en fait.
Maintenant, je suis chef d'entreprise. J'ai été salarié pendant des années. Je suis un ancien administrateur système et réseau. J'ai travaillé pour des grands groupes français et internationaux, dont mon dernier employeur, un grand groupe rennais.
Vous avez fait une formation de quel type du coup?
Alors, je me suis complètement planté dans mes études, moi, à l'époque. J'ai fait un BTS électrotechnique, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Et puis, c'était dans les années 90. À l'époque, ça n'existait pas, les formations, tout ça. Et j'ai appris sur le tas, par passion. Ça fait
l'informatique.
L'informatique, mais depuis petit, j'ai monté... la première fois que j'ai monté le magnétoscope de mes parents, ils ont hurlé. Bon, quand je l'ai réparé, qui marchait, ils étaient bien contents, mais quand ils l'ont vu en vrac, vraiment, ils ont fait la gueule. Voilà, et donc j'ai toujours tout démonté depuis que je suis gamin. Je pétais tout, donc il fallait bien que je répare après pour pas me faire engueuler. C'est parti de là un petit peu. Parce que ça me pétait toujours dans les mains, donc il fallait que je répare après. Des études sympas au lycée, BTS catastrophique, remontée contre l'éducation nationale, j'ai tout lâché. Je cherchais un boulot, j'ai trouvé un boulot sur Paris, et là j'ai fait mes armes sur Paris, sur les 5 départements. J'ai travaillé même pour Microsoft France, j'ai installé des produits Microsoft chez Microsoft France qu'ils n'arrivaient pas à les installer. À l'époque de Outlook 98, qui marchait
En Irlande.
Pardon?
À l'époque où ils étaient en Irlande.
Non, en France.
On est autour de
Zulis, je crois, en 1995, 17. Juste après, on était dans la mouvance Windows 95, Windows NT4 pour les entreprises, les trucs qui avaient beaucoup mal marché.
Est-ce qu'on fait déjà de la maintenance informatique?
Avant, je faisais de la maintenance informatique. Voilà, c'était de la maintenance informatique, et logiciel, j'installais, je dépannais sur place, sur les 5 départements d'Ille-et-Vilaine, n'importe quoi. Les 5 départements d'Île-de-France, ça a été très, très, très formateur.
D'accord.
Voilà. Et donc ensuite, j'ai trouvé différents postes en tant qu'administrateur système et réseau, et j'ai déboulé à Rennes en 99.
Et donc, si j'ai bien compris, vous avez plutôt un métier confortable pendant...
J'ai eu un métier très confortable.
Pendant très longtemps et clac, ça a été quoi le déclic?
Je ne supportais plus la politique des grands groupes sur la manière qu'ils géraient l'humain, sur la manière qu'ils géraient le matériel, ça m'insupportait.
Voilà. Vous avez pas été jusqu'au ce qu'on appelle maintenant le burn-out
Non, je ne fais pas le burn-out professionnel. J'ai eu des burn-out personnels, mais pas forcément professionnels.
Professionnel. Quoi.
Voilà.
Et au bout d'un moment, vous en avez marre, en fait. Il y a eu un déclic particulier ou c'était une lassitude sur le terme.
Sur le long terme. Et pareil, à force de discuter avec Yo de My Human Kit, où on discutait un petit peu de qu'est-ce qu'on faisait de ces nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait avancer, etc. On a voilà, à force d'en discuter, voilà, lui, il fait partie maintenant de l'association My Human Kit, et moi, j'ai créé SOS Ordi 35, aussi grâce à lui, quoi. Il m'a permis de m'éveiller à certaines choses, quoi, et à m'autoriser certaines choses.
Mais ça veut dire, quand même, des sacrifices, quelque part. Vous laissez une place confortable, vous avez démissionné, ou vous êtes arrangé pour trouver un compromis, on va dire ça comme ça.
Je les ai même carrément attaqué pour avoir un petit peu d'argent. J'ai créé une entreprise, mais qui était pas, je voulais créer une entreprise sur une vieille passion qui était l'audiovisuel. J'ai créé donc une petite entreprise de services audiovisuels qui a pas marché. Au bout de deux ans, j'ai fait à Rennes, à Gauvin, chez moi. Enfin, vraiment, donc
on est en 99, là.
Ah non, on est en 2007, là, déjà.
2007. On a fait un bon temps, mais 99, 2007, vous êtes à Rennes.
J'étais à Rennes, voilà, dans les grands groupes où j'étais administrateur système.
Ah, d'accord, vous étiez encore dans les grands groupes.
Tout à fait, jusqu'en 2007, ouais. Et juste au début de la crise, en 2007, je crée une entreprise, donc je me suis vautré tranquillement au bout de deux ans, comme il fallait. Voilà, mais sans perte, voilà. Et au bout d'un an de, pas de chômage, mais de non-travaillant, enfin de non-travaillat,
Rien.
Je me suis dit, je vais peut-être refaire retravailler dans mon métier, dans ce que je sais faire. Et donc, pour 50 balles, j'ai créé SOS Ordi 35 en tant qu'auto-entrepreneur, chez moi, dans le bureau de 9 ou 12 mètres carrés. Et pendant 3 ans, j'étais auto-entrepreneur et j'ai commencé à faire mon métier, à dépanner les PC. J'ai acheté du matériel d'extraction de données professionnelles. Et ce qui m'intéressait, c'était de réparer un ordinateur du début à la fin. Aussi bien de commencer à réparer les cartes mères des ordinateurs, déjouer l'obsolescence programmée qui était différente mais qui existait bien déjà sur les ordinateurs, récupérer les données, avoir un service du début à la fin et un service de qualité. Le problème, c'est-à-dire que quand on achète de la pièce et en tant qu'entrepreneur, c'est très compliqué de déduire certaines choses. Donc, plus je travaillais, moins je gagnais. Donc, au bout d'un moment, je dis, beaucoup plus de clients.
On peut rappeler le statut, en fait, d'auto-entrepreneur, si j'ai bien compris. Il y a un truc qui est pas mal dans ce statut-là. Ça vous permet de mettre le pied à l'étrier quelque part pour voir si ça marche ou pas. Mais vous êtes limité, par rapport à ce que vous pouvez, gagner comme argent.
Déjà, faut y arriver. Faut arriver jusque-là, déjà.
Et tous les frais, en fait, sont comptés.
On les déduit pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est faire que du service. Et surtout, ou faire acheter le matériel par le client.
Ça rentre dans vos comptes.
On paye des impôts sur l'achat, sur le chiffre d'affaires complet. Donc, ça représente des sommes hallucinantes. On n'arrive même pas, je me rappelle, mon meilleur chiffre d'affaires de 7 000 € en un mois, tout compte fait, en net, j'avais gagné 1,95 € déduit des impôts. Voilà. Donc là, j'ai fait, faut que j'arrête. Faut que je passe à autre chose. Et donc, j'ai créé la SARL en mai 2014 avec un salarié en contrat de professionnalisation. Donc, on était un et demi parce qu'il n'était pas là tout le temps. Donc, ça a été très compliqué pendant au moins un an et demi. Par rapport à nos problèmes de réparation électronique, mes compétences se sont retrouvées à la limitée. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un mec génial, un ingénieur grâce à Yo, qu'il avait rencontré au La Fab de Rennes, Elfrich.
Bonne adresse.
Pardon.
C'est une bonne adresse,
c'est ça. Et il m'a fait rencontrer donc Elfrich que j'ai embauché tout de suite, qui est un ingénieur électronicien mexicain, qui a un master 2 en électronique, et qui est un fou aussi de réparation. Lui, il jette rien, tout peut être recyclé, réparé, etc. C'est vraiment le gars qu'il me fallait pour la boîte.
Vous êtes déjà 3, du coup, alors.
Et alors là, on devient 3, tout à fait, on est à 3. Et au mois de février dernier, là, j'ai embauché un nouveau salarié, un technicien qui est un fou de jeux vidéo, donc ça nous permet, et qui est bien calé en réparation de smartphones et de tablettes, donc ça nous donne vraiment une gamme complète. On fait de la réparation, de l'extraction de données. On est bon sur les Mac, sur les PC, sous le Windows et Linux, sur les tablettes, les smartphones, sur tout ce qui est jeux vidéo et donc machines pour jouer, sur les consoles. Et voilà, on a un spectre de réparation et de connaissances complet. On est une équipe. Et voilà.
On va s'écouter un petit disque parce que justement il y a aussi.
Moi, j'arrive même plus à noter.
Si j'ai bien compris, aussi une philosophie derrière tout ça.
C'est la philosophie,
c'est ce qui est important. On s'écoute un petit disque et on vous retrouve tout de suite après Bibi.
I feel like shit. I met a man called Terry. He told me a joke. The punchline was dirty, and he was a dirty bloke. I handed him a dollar so he would go away.
shook my hand and wished me well and went about his day. Confessed my sins to Tony, a man from Tennessee, who drove me to the city, took me from A to B. Cruising through the desert, smoking through the night, eyes on the horizon, into the morning light. The people that you meet, walking down the street. The people that you meet, walking down the street. The stories that you share, remaining in your chair. The people that you meet, walking down the street. I walked into a sex shop, a lady had a beard. She took me through the products, that's where it all got weird. Performed a demonstration, showed me all the toys. Sold me a bottle of pheromone that works for girls and boys. The people that you meet, walking down the street. The people that you meet, when you're walking down the street. The stories that you share, remaining in your chair. The people that you meet, walking down the street. Oh, walking down the street. The people that you meet, walking down the street. The stories that you share, remaining in your chair. From NYC. Now he lives in Malibu in a mansion by the sea. Production is his game now. He called my friend Laurie. He used to be a Beastie Boy, but now he works for me. The people that you meet, walking down the street. The people that you meet, walking down the street. The stories that you share, remaining in your chair. The people that you meet when you are walking down the street.
Voilà, Slaves, la programmation à Roger, People That You Meet, vous savez, les gens que vous rencontrez quand vous sortez du bistrot.
Je vous vois quasiment tous les soirs en rêve. Là,
voilà,
là.
Et ben voilà, ce morceau-là, très très bien, tiens que je dois à la, comment, à l'oreille, comment, aiguë de mon ami l'Irlandais. Voilà.
Vous l'aurez deviné. Votre nègre.
C'est pas mon nègre. Alors, un nègre, justement, alors justement, parce que vous dites.
C'est celui qui trouve, qui vous inspire.
Vous m'avez souvent accusé d'utiliser des nègres. Le nègre, là, comment, on n'en parle pas, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de nègre. Alors que moi, à chaque fois, je cite mes sources et il dit « Ah, c'est votre nègre ». Ben non, c'est pas mon nègre puisque je le cite.
Non, mais Grovich,
vous avez déjà vu un homme politique citer
Il vient de me glisser à l'oreille, en fait, non, c'est pas votre nègre, c'est votre muse.
Ah, bah mais oui, si vous
voulez. Allez, dites-le, dites-le.
Ils vont dire oui. Et bref, puis allez. Tout ça nous éloigne du sujet.
Je vais pas vous laisser dans l'embarras.
Nous sommes toujours en compagnie de Bibi, qui vient nous parler de SOS Ordi 35. On a à peine effleuré le sujet. Moi, j'ai déjà noté des tas de trucs hors antenne, pendant l'antenne, et il nous reste déjà plus que trois quarts d'heure.
Voilà, donc vous aurez votre boîte...
2014.
Voilà, et avec une philosophie, justement, derrière, c'est quoi le truc?
La philosophie, c'est consommons moins, consommons mieux et réparons. Voilà, on a une planète qui est en train de crever, on surconsomme, on jette, ça crée des déchets. En plus, les nouvelles technologies, c'est des déchets hautement polluables, hautement polluants. Il faut arrêter ça, ça sert à rien, on est sur une consommation, il faut tout de suite acheter, l'iPhone 6 est sorti, l'iPhone 7 est sorti, l'iPhone 8 est bientôt en train de sortir, les gens jettent leur smartphone, leur machin, leur truc, ça marche pas mieux, et en plus les produits sont de plus en plus de mauvaise qualité, et de plus en plus cher. On vous fait croire que c'est moins cher, c'est faux, c'est de plus en plus cher avec une plus mauvaise qualité. Voilà. Et nous,
et
voilà,
tout le déchet par la suite, parce qu'il faut voir aussi, une fois qu'ils ont quitté le circuit où ils fonctionnaient, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, oui. Ça, c'est des catastrophes écologiques, le traitement de ces déchets-là. Et voilà, moi, je suis contre ça. J'aime m'acheter des fois quelque chose. Je suis pas sur forcément de la sur arrêtons de consommer tout, retournons pousser des chèvres. Non, je suis pas d'accord, mais
il se trouve que l'informatique
consommer différemment, on peut
se trouve que l'informatique particulièrement sujet à ça, c'est-à-dire à l'obsolescence, et on retrouve des montagnes au Ghana par exemple, sur la Côte d'Or, l'ex-Côte d'Or, où on retrouve des gamins qui sont sur des montagnes de matos informatique en train d'essayer de choper des petites pièces en or parce qu'il y aurait de l'or dans
certaines pièces. Il y en
a. Mais bon, c'est une catastrophe. La Côte d'Or, voilà, on t'a piqué ton or et on te renvoie des tonnes de merde en plastoc, et puis sur
ils récupèrent leur or.
Ouais,
il y a une morale quand même.
Oui.
On a une obsolescence qui est l'obsolescence technologique. Par exemple, tous les 10-12 ans, un matériel technologique devient obsolète technologiquement parlant par rapport à l'évolution de la technologie. Mais on a quand même 10-12 ans devant nous. On n'a pas un an, deux ans pour changer du prochain produit. L'iPhone 6 marche très bien, ça sert à rien d'acheter l'iPhone 7. Et puis l'iPhone 5 il marche très bien aussi, puis l'iPhone 4 aussi marche très bien. Voilà, à quoi ça sert ? Ma question c'est toujours à quoi ça sert ?
Alors on va prendre l'exemple parce que je crois qu'assez révélateur, parce que tout le monde a une imprimante, ou la plupart des gens ont une imprimante chez eux, et l'imprimante... on se dit, voilà, je vais être écolo, ou je vais faire des économies, je vais prendre de l'encre dite...
C'est-à-dire que j'avais acheté une espèce d'HP 8615 de merde, j'ai donc, voilà, pouf pouf, avec scanner, imprimante. Oui.
Le bon gros bloc en plastique.
Gros bloc en plastoc. Et du coup, histoire de, ça va faire moins de cartouches, etc., je vais les faire recharger. Et au bout d'un certain temps, alors il me dit, c'est pas des bonnes cartouches, je t'emmerde, je continue à fourguer et tout, puis au bout d'un an, pouf, il m'a dit, terminé. Alors, je dis, bon, je vais peut-être mettre les cartouches officielles HP, je vais acheter des cartouches HP. Il dit, je ne les reconnais pas. Il ne reconnaît plus rien. Et vous, terminé.
Vous avez joué, vous avez perdu.
Voilà. Alors, j'ai retrouvé justement dans le lien que vous nous avez envoyé quand vous nous avez écrit, le fait qu'effectivement, c'est carrément déterminé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément pour mon imprimante, et après, vous allez pouvoir généraliser l'affaire, mais...
Le but des vendeurs d'imprimantes Gedank, c'est pas de vous vendre une imprimante, c'est de vendre des consommables, comme fait Nescafé avec ses petites capsules. Voilà. C'est pas de vendre des appareils, c'est de vendre le consommable. Donc HP, quand vous vous achetez une imprimante HP, si vous n'achetez pas les consommables HP, ça ne les intéresse pas. Alors là, on parle de Hewlett-Packard, mais les autres, c'est pareil.
Il devrait le dire en rouge, que dans un an, je l'aurai dans le cul.
Non, mais c'est marqué.
Il vous conseille d'utiliser les cartouches du fabricant.
Je vous assure, en plus.
Et ils ont fait une petite mise à jour du firmware. Avant, on pouvait le faire. Maintenant, sur même les anciennes imprimantes, HP vous dit, il y a un petit problème, ce serait bien de mettre à jour votre firmware. Donc le firmware, c'est le micro-logiciel qui va gérer votre imprimante. Et si vous mettez à jour ce petit micro-logiciel, eh bien automatiquement les imprimantes qui avaient des anciens firmwares ont un nouveau firmware qui font la même chose, qui vous interdit d'utiliser des cartouches recyclées. Vu que c'est interdit, sûrement ils vous laissent utiliser des cartouches recyclées pendant toute la période de garantie de l'imprimante, et du moment que la période de garantie se termine, paf, quand les cartouches sont foutues, ils vous interdit de remettre des cartouches, même les cartouches originales.
C'est le hasard, non?
Non, parce que la prochaine fois que vous rachèterez une cartouche, vous achèterez des cartouches HP, parce que vous ne voudrez pas que ça recommence. Et donc, vous achèterez bien les consommables du constructeur de votre imprimante.
Voilà.
Et ça explique pourquoi aussi une imprimante, ça coûte pas très très cher, quelque part. Par contre, tout ce qui coûte cher, c'est...
tous les consommables.
Ouais, tout ce que vous appelez les consommables.
Du coup, l'imprimante à Gedank à proscrire.
Oui, alors justement, vous faites une union,
l'imprimante laser.
Laser, ouais.
Alors, l'imprimante laser, alors après, côté pollution sur les tonnerres ou entre le tonnerre et les jets d'encre, là il faut voir quelqu'un d'autre pour connaître les taux de pollution par rapport au type d'encre. Mais par contre, l'imprimante laser, vous allez pouvoir la réparer. Et en plus, ça va vous coûter moins cher parce que vous faites énormément de copies. Vous pouvez partir 3 mois en vacances, vous revenez, votre imprimante, elle va toujours fonctionner. Par contre, si vous êtes un gros consommateur, bien sûr, il y a des pièces d'usure dans une imprimante laser et ça coûte assez cher quand on remplace les pièces d'usure, et des fois ça vaut pas le coup de la faire réparer, il vaut mieux acheter une nouvelle imprimante. Mais si vous êtes du côté je ne vois pas pourquoi je ferais réparer mon imprimante au lieu d'en racheter une autre, eh bien vous réparez votre imprimante et vous pouvez la garder 10 ans, 15 ans sans problème.
Et moi qui aime bien l'image, je suis un peu frustré avec la laser, excusez-moi, je vous mets la parole après, mais en laser, on a que du noir et blanc.
Non.
Non, on peut avoir
on
la
a
couleur.
La petite laser monochrome là qui est super parce que elle coûte 150 €, même des fois un peu moins. Ah, et vous pouvez si vous n'êtes pas un gros utilisateur pendant 5 ans ou 8 ans, même pas changer une seule fois votre toner.
Parce que oui, c'est vrai, vous
parce
dites...
que si vous imprimez une fois de temps en temps, je veux dire votre avant de faire les 2500 pages ou les 5000 pages qui de votre toner, vous en avez pour un moment.
Et elle, elle fait juste imprimante.
Voilà, elle y a tout. Elles font comme les on a les dents, qu'on a dans les imprimantes, on a les imprimantes laser, on a les monochromes. On a les couleurs qui sont à des prix abordables autour de 300-350 €, et on a les monochromes ou couleurs avec le scanner intégré, avec le chargeur, etc. Donc là, c'est des imprimantes qui vont coûter 350, 400, 650, suivant la dimension de l'imprimante par rapport à vos besoins. Et c'est des imprimantes où on peut quand même compter dessus et qui sont réparables.
Donc ouais, c'est vrai, vous avez annoncé un prix, 300 € pour avoir une imprimante que je peux avoir à 70 ou 80 €, à part qu'elle est fiable. Elle est fiable et économique. Finalement, je vais l'amortir au bout de 2 ou 3 ans.
Ce qui va vous faire mal, c'est quand vous allez changer les toners, faut faire attention. Avant d'acheter une imprimante laser, renseignez-vous au prix des toners parce que ça peut vous faire très très mal. C'est-à-dire que des fois, à 160 € pièce le toner d'origine, vaut mieux prendre du recyclé, ça risque de faire mal.
Est-ce que je peux aller chez mon ami le pirate qui va me la recycler?
Alors l'intérêt, c'est ça, c'est que les imprimantes laser, c'est qu'on trouve des firmwares craqués qui permet qu'on mette ce firmware-là, ça s'achète 10 $ sur Internet, on met un firmware craqué sur ces imprimantes-là et on peut utiliser des toners recyclés sans aucun problème.
Vous avez le droit de faire ça?
C'est mon imprimante, je l'ai achetée, elle m'appartient.
Donc après, ouais, non, mais okay. C'est une manière de.
Eh ben, moi, j'achète. J'achète. Vous me dites donc que c'est, j'ai le ticket quelque part.
Alors, après, il y a plus sous garantie, au moindre pépin, bien sûr, on n'est plus sur la garantie constructeur dans ce genre de cas. Puis, le fait de mal flasher son imprimante, ça peut devenir une brique, hein. Il faut faire attention quand même. Faut pas faire n'importe quoi, quand on fait ce genre de choses. Faut être sûr de soi quand on fait ça.
Et en discutant, justement, pendant l'interview de notre invité précédent, on apprend pas mal de choses aussi, tout en parlant de, d'imprimante. C'est-à-dire que si je l'utilise pas, on parle toujours de jet d'encre.
De jet d'encre, oui.
Donc, moi, j'ai une utilisation familiale, une petite photocopie par-ci, une petite photocopie, enfin, photocopie impression par-là, etc. En fait, j'ai dans le cul parce que si je m'en sers pas tous les 2 ou 3 jours, ça sèche et c'est mort, quoi.
Les bus vont sécher, c'est-à-dire l'encre dans les bus qui sont des petits trous microscopiques, l'encre va rester dessus, va sécher et va bloquer l'impression.
Il n'y a pas eu un volet, pardon.
Et conclure, quand on préparait l'émission, vous disiez en fait une imprimante jet d'encre, c'est 2 ans, point.
Alors, il y en a qui peuvent sur des vieilles imprimantes, ça peut durer 10 ans pour certains qui l'ont utilisé régulièrement. Ce qu'il faut pas que ça sèche. Il faut l'utiliser, votre imprimante jet d'encre.
Donc vous quittez vos vacances ou alors vous l'emmenez avec vous en vacances.
Ouais, c'est ça. Vous faites une imprimante de temps en temps. Ouais,
T'emmènes quoi dans ta valise une imprimante? Ça va être rigolo à expliquer.
On a des jet d'encre qui ont contenu 10 ans, 12 ans, hein, sans problème. En jet d'encre, ça peut tenir. Enfin, ou ça tenait. C'est-à-dire que là, on parle d'imprimantes qui ont été construites il y a 12 ans, pas les imprimantes qui ont été construites maintenant.
Les gens qui viennent nourrir le chat, photocopient leur gueule sur le photocopieur, pouf, il y aura même la date. Et pour une imprimante. Par contre, à propos de ça, il y a quand même d'autres soucis. C'est-à-dire que il y a le côté, on travaille comme ça. Mais tout à l'heure, justement, en préparant l'émission, vous parliez de la loi Hamon, la garantie constructeur, ramener le matos, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Alors, la loi Hamon nous dit que maintenant, les vendeurs, les vendeurs et pas les constructeurs, les vendeurs sont dans l'obligation de garantir votre matériel contre les défauts et autres pendant 2 ans, sans que l'utilisateur a prouvé que le matériel a bien un défaut.
On ne parle pas de la casse.
C'est au vendeur de payer.
Voilà, c'est-à-dire que si le matériel n'est plus sous garantie constructeur, c'est au vendeur de vous donner un produit, de vous échanger un produit identique ou un produit équivalent. À sa charge.
Qu'est-ce que vous appelez la garantie constructeur? La garantie quand on l'achète?
Oui, la garantie constructeur, c'est la meilleure des garanties et ça vous donne une qualité du produit. Un constructeur qui vous dit, moi, mon matos, je le garantis 10 ans, ça veut dire que s'il tombe en panne, eh bien, vous le renvoyez au constructeur, soit il vous le répare, soit il vous renvoie un produit neuf ou équivalent. Et tout ce que vous avez à payer, c'est les frais d'envoi. Dans le cas où c'est un vendeur, quand vous l'avez acheté quelque part, généralement c'est le vendeur qui renvoie au constructeur et qui paye les frais de retour. Ça me semble normal. Ça s'appelle le service et quand le vendeur a margé sur le produit, la marge, ça sert aussi à ça. Parce que... Et donc la garantie constructeur, plus vous avez une grande garantie constructeur, plus le constructeur pense que son produit va durer. Donc plus vous avez des chances que votre produit va durer également. Et en France, où plus ça va, plus on a des garanties constructeurs de 1 an. Donc dès que vous achetez une chose, c'est-à-dire un sèche-linge, quoi que vous achetez qui a une garantie constructeur de 1 an, vous êtes sûr que vous achetez de la merde. Voilà. Vous ne devez rien acheter en dessous de 3 ans. Voilà. Sinon, en dessous de 3 ans, c'est sûr que c'est fait pour que ça pète.
Moi, y a un truc non, mais c'est intéressant m'énerve. Ce que vous dites. Donc, ça, c'est un critère d'achat. Alors, on parle pas d'imprimante. On parle de globalité. Donc, le bas de gamme, 1 an, grosso modo. Après, on en parlait justement, le moyen de gamme, 3 ans. Donc, c'est peut-être la solution, le moyen de gamme.
Alors, moi, je vais pas appeler ça des entrées de gamme et des moyens de gamme parce que c'est faux. Maintenant, on va appeler ça une qualité de construction, parce que si vous allez chez Apple, l'entrée de gamme ou le haut de gamme, c'est-à-dire que le haut de gamme, vous aurez des disques durs plus performants en rapidité, vous allez avoir plus de mémoire, mais la qualité de fabrication sera identique. Mmh. Hein? Donc c'est-à-dire que Apple avant vendait du matériel qui était fabriqué aux États-Unis. Maintenant ils sont fabriqués en Chine. On a le même matos chez Apple que ce que vous pouvez trouver partout ailleurs, c'est-à-dire c'est du processeur Intel, c'est le même type de carte, c'est fabriqué en Chine, et ils se sont dit, Apple, tiens, nos produits c'est un peu cher, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre, excusez-moi l'expression, on va vendre aux pauvres, en vendant des ordinateurs, au lieu de les vendre à 3 000 €, on va faire des entrées à 1 200 €. Hein, les MacBook Air à 1 200, les MacBook à 1 200, qui est quand même une sacrée somme. Ouais. Et il faut savoir qu'un MacBook ou un MacBook Pro à 1 200 balles ou un iMac après 2014, donc tous les produits après 2014 que vous allez acheter à plus de 1 200 €, ça vaut les produits d'entrée de gamme à 400 balles en supermarché. C'est la même qualité.
Sauf que c'est pas marqué Apple dessus, quoi. Là.
Voilà. Et il faut savoir que sur les derniers produits Apple, MacBook Pro ou MacBook Air, ils ont juste fait un petit truc pour que ça tombe en panne. Juste un petit truc.
En plus.
Un petit truc, c'est que le problème de l'informatique de maintenant, c'est-à-dire que c'est de plus en plus petit. Et l'informatique, les composants électroniques souffrent de la chaleur. Donc poussière et de la chaleur. Donc il faut que ça soit bien dissipé au niveau thermique. Et qu'est-ce qu'a fait Apple sur les MacBook Pro? Eh bien, ils ont oublié de mettre un dissipateur thermique sur le processeur graphique. Ils ont juste oublié.
Ça peut arriver.
Et donc, au bout de 2 ans, le processeur graphique, à force de chauffer, eh bien, votre machine, elle tombe en rade. Terminée, hors période de garantie, poubelle. Ou alors, on change la carte mère, 700 €.
Par contre, on va s'écouter un petit disque. Ouais. Moi, l'information que j'ai retenue, garantie 3 ans, je suis...
C'est un minimum. Garantie 3 ans, constructeur, 3 ans, c'est un minimum.
Je suis sûr d'acheter quelque chose... qui devrait
vous espérez pouvoir acheter quelque chose, vous pouvez compter
mais
dessus.
Mais en théorie, c'est
déjà,
possible.
C'est mieux. À partir de 3 ans,
d'accord,
ça devient intéressant.
D'accord, mais c'est voilà. 3 ans. Que je connaissais pas.
3, voilà. C'est le chiffre.
3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est le mieux, hein. Mais ça, c'est pour votre machine à laver, pour tout.
Pour tout, d'accord. Tout. Voilà. On s'écoute un petit disque et on poursuit notre conversation.
Talk about the money, always talk about the honey, baby. Oh, my brother's here. What's your name? What's your name? Take it down to the river, take it with a pinch of salt. Whatever the kid is good, it's not my fault.
Devil, take my soul if you want it. Bring you back to me for just one night. Devil, take my soul if you want it. Bring you back to me for just one more night.
Oh. Well, I made a deal with your mama. Made a deal with your pa. We can make a deal, baby. Like Monty Hall, going down to the valley, going out in the field. Someone better come save me, please. I'm begging you.
Devil, take my soul if you want it. Bring you back to me for just one more night.
take my soul if you want it. Bring you back to me for just one more night.
En compagnie de Bibi de SES Ordi 35. Alors j'étais parti justement en parlant sur mais c'est une arnaque en fait donc j'ai obtenu garantie 3 ans constructeur.
Ouais, 3 ans, on va pas revenir sur les 3 ans, vous allez me rappeler.
J'avais
par contre moi j'ai une question. Vous disiez tout à l'heure en antenne que cette fameuse loi Hamon, la garantie constructeur, comment ça pouvait aussi amener à la ruine des plus petites structures. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser un peu l'affaire là?
Alors le problème c'est que j'ai pas encore bien compris cette loi, j'ai essayé de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants, mais on tombe toujours sur les mêmes textes, donc j'ai du mal à comprendre jusqu'où le revendeur est impliqué dans ce problème. Le truc c'est, imaginez que tous ceux qui ont eu des qui ont acheté des ordinateurs, des imprimantes,
le Samsung 7 par exemple.
Hop, le Samsung S7,
vous l'avez vendu, vous l'avez
non,
vendu
moi, en pas fait. Ça,
non, mais imaginez ça.
Ah ben pas parce que Samsung
là, il s'est repris retiré, directement par le constructeur Samsung là,
mais
c'est
pour le matos.
Non, mais il serait pu justement être repris par le revendeur quelque part.
Ah oui, mais ah oui, oui, mais là on a une garantie. Il est tout neuf. Là on a une garantie constructeur, mais imaginez vous achetez un produit qui a une garantie constructeur de un an. La loi Hamon dit la garantie constructeur, la garantie est de 2 ans.
Elle double.
Elle double. Donc imaginez que votre produit, vous venez au bout d'un an et demi avec votre imprimante, avec votre ordinateur, avec votre télévision, avec votre appareil photo, avec votre tablette, avec votre smartphone, avec tout ce que vous voulez, et que vous le ramenez chez votre revendeur, qui peut être une grande surface comme un petit revendeur, eh bien, il va être dans l'obligation de vous échanger le produit. Mais vu qu'il y a la garantie constructeur ne court plus, il c'est à sa charge.
Donc vous êtes un petit revendeur, ça risque d'être un peu compliqué. Là.
Ah ben au bout de 3 produits, vous fermez.
Alors,
vous fermez,
est-ce que la solution c'est pas justement pour la part du vendeur de dire bah moi je vais plus vendre des garanties, non?
C'est ce que nous on fait justement depuis longtemps, c'est ça, on ne vend que du produit garanti 3 ans, 5 ans, 10 ans ou à vie.
Voilà. Mais alors dans ce cas-là, ça double aussi, donc c'est plus 3 ans, ça devient 6 ans.
Non, ça reste 2 ans. La loi Hamon, c'est 2 ans. C'est le minimum 2 ans que les produits doivent être garantis.
Est-ce que la philosophie justement de cette loi Hamon était justement d'éviter le développement et la vente justement de ces produits de merde?
Oui, mais pourquoi on met la faute sur le vendeur,
c'est ça,
sur le vendeur plutôt que sur le constructeur? Si on interdit les produits, si on dit à Samsung, LG, Apple, etc., en disant merde, vos produits garantis un an, on n'en veut plus, eh bien, ils vont juste... on souhaite, c'est le cas déjà.
Et en Suède, ils ont pas de produits qui garantit un an, donc ils ont des produits de meilleure qualité. Mais il suffit juste de dire, on veut plus de vos produits. Mais alors là, on touche à l'économie, là. Oula.
Mais là, on évoquait des marques. Est-ce qu'il y a une marque qu'on... respectueuse?
On a des gammes, on n'a pas de marque, on a des gammes. Ah, alors, on parle des gammes, mais il n'y a pas de gamme ou de gamme.
Justement,
ils sont tous capables du pire comme du meilleur. Certains sont capables que du pire, et d'autres sont capables du pire comme le meilleur.
Qu'est-ce qu'il faut éviter, allez-y,
sur quel produit, ça dépend sur quel produit.
Tout ce qui est informatique, puisque c'est votre imprimante.
Vas-y, donc vous avez sur les encres, les Epson, elles bouffent de la cartouche. Les HP, elles vous empêchent de mettre
de l'encre.
Voilà. Sur certaines télévisions Samsung ou LG, elles sont faites pour cramer parce qu'ils ont pas mis les radiateurs, les dissipateurs les dissipateurs thermiques sur les puces qui font le traitement du flux vidéo. Donc à force que ça chauffe, et bien automatiquement ça tombe en panne. Il y avait dans les années 2000, il y a eu un scandale sur les télévisions Samsung par rapport aux condensateurs qui gonflaient, les condensateurs qui étaient proches des dissipateurs de chaleur des transistors, et donc ça faisait péter les transistors. Ça faisait péter les condensateurs. Donc il y a eu les USA sont montés au créneau, l'Europe on dit rien comme d'habitude. Samsung a changé sa politique, pas de souci. Maintenant les condensateurs ils sont nickel. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on retire des dissipateurs de chaleur, on n'en met pas, des dissipateurs, hein. Et comme ça, quand vous
chauffe,
mais ça se voit pas que c'est en panne.
Ouais, faut que ça chauffe.
Ça chauffe et ça se voit pas que c'est en panne. Et voilà. Et donc, il faut changer carrément des puces de type BGA, c'est-à-dire des puces à matrice active, qui sont assez complexes à remplacer. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de changer les cartes plutôt que seulement les composants. Mais toujours, ça se répare. Mais voilà, là, on est sur une auto-obsolescence, c'est-à-dire, au lieu de toucher les condensateurs, on fait un truc qui ne se voit pas. Et tous les constructeurs font la même chose.
Tous.
Voilà.
Il n'y a pas de marque vertueuse,
aucune.
C'est bizarre qu'il n'y ait pas une marque qui se soit
bizarre, vous trouvez ça bizarre?
Non, mais une marque qui ne soit pas mise dans le créneau, justement. Il y a un créneau à prendre, tout ce qui est décroissance.
Pour conserver votre télévision, déjà, ce qu'il faut que vous fassiez, il faut déjà que vous retirez le mode veille de votre télévision.
Et ça, c'est impossible. Enfin, à part si je débranche et qui débranche la télé, vous allez se
coucher. Elle est toujours alimentée, votre télévision. Alors, elle n'est pas alimentée en puissance, mais elle attend toujours que vous appuyez sur le bouton on de votre télécommande. Donc, l'électronique est toujours alimentée. Donc, l'électronique vieillit. Voilà. Et en plus, elle vieillit mal, l'électronique. Avant, pour moi, l'électronique, quand j'étais gamin, c'était des trucs qui étaient increvables. Et quand vous prenez un vieil ampli des années 60, 70, 80,
toujours.
Il fonctionne toujours, parce qu'on est sur la grosse électronique de puissance qui marche très bien. Et la qualité des composants a complètement chuté, les composants sont très fragiles et ils supportent pas la chaleur. Voilà. Donc il faut que ça ventile. Et le mieux, dans les télévisions, il faudrait mettre des ventilos. Nous, quand on lutte contre l'obsolescence programmée, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on rajoute donc des dissipateurs de chaleur sur les composants des télévisions pour que ça dure plus longtemps. On va remettre des dissipateurs de chaleur sur les MacBook Pro pour que ça dure plus longtemps. On va mettre de la pâte thermique sur les dissipateurs de chaleur sur les MacBook Air pour que ça dure plus longtemps. On essaye. Alors, des fois, malheureusement, on peut réparer, mais pas contrer au niveau pérenne. Des fois, on le fait quand c'est possible, mais des fois, on ne peut pas le faire, malheureusement. Mais des fois, voilà, on augmente la durée de vie de votre matériel quand on le répare.
Ah, si j'ai bien compris, votre société répare, mais vend aussi, en fait.
Alors, c'est
avec une certaine déontologie.
C'est ça. Voilà. On ne vend que du matériel où on pense avoir confiance en ce matériel-là.
Donc, si je veux trouver quelque chose de pas cher du tout, je vais pas chez vous.
Non.
Voilà, non, mais c'est bien.
C'est un coût, mais c'est pas extrême, loin de là. C'est-à-dire que si votre ordinateur, le coût de la nouvelle obsolescence programmée, parce qu'il y en a plein, mais ce qui est rigolo, c'est pour les ordinateurs portables que vous allez acheter en grande surface, tous, l'ordinateur à 400 balles, comme l'ordinateur à 1200 balles, le nouveau truc, c'est que maintenant, les processeurs sont soudés sur les cartes mères. Et les cartes mères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit l'épaisseur du PCB.
Alors là, Bibi est en train de sortir.
Je sors deux cartes mères.
Du composant électronique.
Une carte mère d'il y a 5-6 ans.
Donc la carte
mère. Une carte mère maintenant.
D'accord.
On va la
Est-ce qu'on peut montrer? Alors c'est dur de montrer, on est à la radio.
On va prendre
des
photos.
Vous nous avez brandi une première carte mère de quelle époque?
Ça c'est une carte mère qui a 5-6 ans à peu près.
Donc c'est une espèce de grande structure en plastique verte sur laquelle il y a pas de petit transistor.
C'est ça.
Voilà.
Le processeur.
Et quand vous la pliez, elle résiste mieux.
Voilà.
Elle est moins souple.
Oui.
D'accord. On
a du mal à la casser.
Vous pouvez la casser.
Non, mais là on a même du mal à la plier. Et ça c'est la nouvelle. Et là effectivement, Ah ouais.
Et qu'est-ce qu'elle fait, celle-là?
Elle pète.
Eh bien, ah non, elle pète pas. Elle va s'auto-déformer avec la chaleur normale des composants. Elle va onduler. Et donc, tous les composants dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dépoper, les composants. Au bout de combien? Entre 13 et 15 mois.
Et ça, c'est sur les genres poil,
après les 12 mois de garantie.
Voilà.
Mais c'est génial!
Et on a la loi à mon qui
c'est
dit,
génial.
Ah ouais, c'est garanti.
Et si on montait une boîte, Bibi, on inventerait justement, on serait millionnaire.
Mais c'est parfait quand même.
D'accord. Hein,
et ça, c'est pour les ordinateurs portables.
C'est les ordinateurs portables et c'est pas l'obsolescence programmée.
C'est la mauvaise qualité.
Non. C'est de l'augmentation de profit. Ce n'est pas de l'obsolescence programmée.
Ah oui, j'enlève un ventilo, par-ci, par-là.
Mais maintenant, il y en a qui n'ont même plus de ventilo. On met même plus de ventilo dans les ordinateurs à 400 balles, il met même plus de ventilateur maintenant.
Alors ça, par contre, ça, c'est garanti un an.
Ça, c'est garanti un an.
D'accord.
Mais sauf que vous retournez voir votre vendeur, eh bien, il vous la change gratuitement. Vous vous rendez compte?
On s'écoute un petit disque après une
restera 10 minutes pour terminer. C'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs, ça.
Alors, programmation à Bibiard. Qu'est-ce que vous nous proposez? Un petit coup de cœur?
Alors, c'est un petit coup de cœur. C'est un, mes vieux potes de Haute-Savoie. C'est du punk rock de Haute-Savoie qui déménage, les Crankeys.
Eh ben, on va s'écouter ça.
Putain, du punk rock de Haute-Savoie. Voilà, et malheureusement l'heure tourne, il est déjà 21h50 et on va devoir intervenir une dernière fois avec SOS Ordi 35 en la personne de Bibi. Il faudrait qu'on aille un peu sur l'avenir, justement la question qui se posait avant la fin de ce morceau, c'était mais là il y a un créneau à prendre, donc là vous êtes dessus, mais effectivement pourquoi aucune grand fabricant a pensé se lancer là-dessus, ou alors je sais pas.
Il faudrait que l'Europe, par exemple, dise déjà non aux produits mal fabriqués, comme a déjà fait commencer la Suède, hein, qui est un des premiers à donc à interdire les produits garantis un an, mais maintenant ils demandent que des produits garantis 10 ans constructeur minimum. Ils baissent la TVA pour les entreprises de réparation. Ils vont essayer de faire baisser les impôts pour les gens où on peut avoir une déduction d'impôts si vous réparez votre matériel au lieu d'en acheter. Et donc ils sont, il faudrait que l'Europe entière rentre là-dedans et qu'on dise maintenant les produits qui rentrent, on n'en veut plus, et voilà, vous contrôlez la qualité.
Surtaxe.
Voilà, les taxes.
Mais bon, alors ça c'est pourtant ce que vous dites, c'est esprit comme 21, tout le monde se gargarise, tout le monde signe. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qui sont dans la COP 21? Des choses justement comme ce que vous dites, j'avais noté, hein, ça se résume en trois mots, c'est on consomme mieux, on consomme moins et on répare.
Oui. En même temps, moi je fais partie du réseau réparateur de la Chambre des métiers, donc ils m'ont contacté, bon c'est rigolo parce que moi je faisais déjà, j'ai signé une charte pour faire partie du réseau réparateur, qui est une charte qui réunit plein de gens, aussi bien des réparateurs de vélos, des couturiers, plein de choses sur la réparation, voilà. Et donc là, la Chambre des métiers a dit tiens, on va faire un réseau pour réunir tout le monde et pour que
le consommateur puisse s'orienter vers ces personnes-là. Donc dans le fond, enfin sur la forme, c'est très bien, c'est super, mais maintenant on attend le fond. Voilà. Donc moi, de temps en temps, je vais pour la Chambre des Métiers justement faire des petites interventions pour expliquer un petit peu ce que c'est la réparation, qu'est-ce que c'est la réparation et qu'est-ce que ça implique. Mais on aimerait beaucoup de l'État, de la Chambre des Métiers, etc., qu'il y ait un investissement supérieur et qu'il se pose les bonnes questions et savoir ce qu'on va pouvoir faire derrière.
Parce comme que pour c'est les bien agriculteurs, par exemple, tiens, on pourrait être un peu ouvert là-dessus, non, comme pour les agriculteurs, on peut rêver. La TVA, par exemple, parce que vous parliez de la collecte de TVA, ça, ça craint, ça.
On pourrait être compliqué pour nous
d'être... La TVA sur la réparation... C'est hyper chaud du coup, et ça vous pénalise.
C'est pas la TVA, c'est la manœuvre en fait. Et là, justement, s'il y avait, les frais liés à la manœuvre.
Moi, dans le cas où il y aurait une baisse de TVA, je ne pourrais pas baisser mes tarifs parce que je suis tellement déjà au taquet. Par contre, l'intérêt, c'est que l'entreprise pourrait pérenniser plus longtemps. Voilà, parce que les 20% de TVA, malheureusement, je dois la rendre à l'État, mais je l'utilise dans ma trésorerie.
Sans parler de TVA, je veux dire, vous faites du... vous réparez... J'arrive avec mon grippin qui coûte, que j'ai acheté 15 euros. Vous allez me dire, désolé, j'en ai pour 2 heures de réparation.
Je ne peux pas.
Je peux le faire. Si, vous pouvez. Mais c'est pas rentable. Aller acheter un œuf, ça
me suis fait violence des fois pour dire non, de dire non à des gens, parce que sinon je prendrais tout, parce que moi je n'aime pas jeter. Mais je suis obligé de dire non, parce que c'est pas rentable pour nous. Et si j'en mets pour 60 balles au client, il va pas être d'accord. Par contre, il y a l'association des Repair Café, qui, premiers mardis du mois, allez sur Internet pour regarder un petit peu quand est-ce qu'ils se réunissent.
Tous les liens sur le blog.
Exactement. Ouais. Et eux, justement, permettent de réparer ce genre de choses. C'est une association, donc à but non lucratif, qui vous permet de réparer ce genre de choses pratiquement gratuitement, ou d'acheter la petite pièce qui va bien et qui permet d'offrir ce service. Mais on en est à des associations, c'est-à-dire que des entreprises ne peuvent pas fournir ce service parce que ce n'est pas rentable et c'est trop cher. Et c'est ça qui est dommage.
On pourrait imaginer, dans les cas des réparateurs, des recycleurs, etc., on parle pas de TVA, mais des déductions de charges sociales, tout simplement, qui permettraient à ce que ce soit viable, finalement. Voilà.
Trouver des façons.
Ouais. Voilà. Enfin, je sais pas, ça pourrait être une
solution. Il y aurait plein d'idées, à trouver,
ça, c'est trop facile.
Peut-être
faut pas rêver. Et on va malheureusement devoir
pas tarder
à conclure. Mais donc du coup, on a consommons moins, consommons mieux et réparons. Donc il y a les Repair Café. Est-ce que vous sentez dans la population un mouvement quand même de gens qui sont de plus en plus sensibles à ça? Est-ce que on est de plus en plus éduqués à ça, ou tout le monde continue à s'en foutre?
Il y a une bonne partie de la population qui sont fous royalement, et on a une autre partie de la population qui se sent concernée, et il y en a une autre partie qui en a marre de se faire avoir, acheter du matos qui tombe en panne, etc., et qui vient vers la réparation, et qui vient sur justement un changement de consommation, sur de la meilleure consommation, achetant de meilleure qualité. Donc là, on a vraiment une partie de la population qui le fait, et ça, c'est vraiment chouette. Et pour raconter une petite anecdote d'un de mes clients, qui ne supporte pas que sa famille, ses amis jettent des télés. Donc dès qu'il y en a un qui jette une télé, il me la ramène, il la répare et il les offre à d'autres personnes de sa famille. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. Et ça l'énerve en permanence dès qu'il y a quelqu'un qui jette un truc, donc il nous le ramène pour qu'on le répare, et après, il en fait des cadeaux.
C'est un peu dans le même...
Je trouve ça chouette.
Le même état d'esprit de, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, vous achetez régulièrement chez eux.
Oui, on va chez comment?
Oui.
À côté de chez Ping Pong, vous savez, la grande surface.
Une association
de produits chinois.
Qui recycle, qui répare des vieux frigos,
Envie de rendre ça.
Voilà,
je viens encore d'acheter une machine à laver à Noël chez Envie. C'est nickel. Alors c'est vrai qu'il manquait, le truc devant là pour cacher la vanne d'évacuation. Connerie, bullshit, je m'en fous. Aller à la cave dans la buanderie. Sauf que c'est une bécane, c'était une super bécane. C'est marqué sur autocollant garanti 3 ans. Mais quand il manquait ça dans la boutique, du 9 kilos pour le linge. Je vous dis, elle est imparable.
Il nous reste 2-3 minutes. Alors justement, SOS, à moins que vous ayez quelque chose, allez-y.
Je vais juste dire un truc sur les machines à laver. Si votre machine à laver tombe en panne dans les 3 ans, ne la jetez pas. Généralement, dans 90% des cas, c'est juste la pompe de vidange. Une pompe de vidange, ça coûte entre 20 et 70 euros, que vous pouvez trouver sur internet ou avec un bon réparateur, en sachant qu'il y a des vrais réparateurs d'électroménager et il y a des margoulins. Et un vrai réparateur d'électroménager, pièces comprises et déplacements, il peut vous réparer votre machine à laver entre 90 et 110 euros.
Hein, à 300 euros, c'est un enfoiré.
Mais où c'est qu'on les trouve, là,
Moi, je connais un, Gobin, c'est Trouflard, c'est un vrai réparateur.
Voilà,
il y en a. Mais voilà. Mais une pompe de vidange, vous retournez votre machine, c'est deux colliers à retirer, et vous changez vous-même votre pompe de vidange. Et quand on voit le nombre de machines à laver qui sont dans les déchetteries, juste parce que pour une pompe de vidange, un 20 balles, voilà, ça m'énerve.
Vous avez sûrement un site internet, est-ce que dans cette volonté, vous pourrez pas proposer des artisans qui bossent bien aussi quelque part? Parce que moi, je suis là, ma machine est lavée, j'appelle qui, moi, à Rennes? Là,
vous m'appelez-moi et je vous conseille quelqu'un.
Oui, vous risquez d'avoir pas mal de téléphones.
Par contre, allez, au cas où, si vous voulez avoir des infos, les coups de gueule, l'actualité, lutter contre l'obsolescence programmée, allez sur notre page Facebook SOS Ordi 35 ou sur notre site internet SOS Ordi 35.
Justement, je voudrais assassiner la porte d'à côté, un changeur de volet. Vous savez, j'avais un volet roulant qui était bloqué, pété. C'est pas la première fois que ça arrive. Et j'arrivais plus à retrouver le nom de l'artisan, Axtor, un excellent artisan qui travaille très bien. Et j'arrivais plus à retrouver son putain de numéro. Il était déjà venu réparer un autre volet dans la baraque, puisque les volets là ont la lèpre, ils le font tous. Il y a un mec qui vient, vous voyez, genre, il me pousse, il mesure, crac. Moi, je change le volet. J'ai dit, vous allez m'envoyer un devis, il m'envoie le devis, 500 boules. Ma femme a enfin retrouvé l'ancienne facture de Axtor, j'ai payé 170, avec justement un amoureux du punk rock comme vous, un ancien bassiste. Voilà, la porte d'à côté, c'est tout pourri, mais alors Axtor, c'est très bien.
Ouais, mais vous savez, et puis je vais conclure là-dessus, il y a un truc qui est simple, les pages jaunes, on peut noter l'artisan, on le fait pas. Quand on est pas content, bah, faut le dire. Quand on est content, faut le dire aussi.
Moi, je veux dire juste un truc. Si vous vous demandez une réparation, on travaille aussi pour les camping-cars, les camping-cars, pour plein de choses. Vous arrivez chez un mec qui vous dit « Oh, il faut tout changer, ça se fait plus, etc. » Vous l'envoyez chier et vous appelez quelqu'un d'autre.
Bien.
Ça se répare toujours. Alors des fois, si le coût de la réparation est excessif, faut arrêter. Hein, des fois, il faut changer, bien sûr. Mais voilà, faut arrêter.
Et son volet, la porte d'à côté, il va se mettre dans.
Il faut savoir dire non. Et bien exactement. D'accord.
Et donc pour conclure, donc chez SOS Ordi 35, je peux trouver de quoi réparer, faire réparer mon matériel, et aussi avoir le conseil, en sachant que j'aurai pas le moins cher, mais que j'aurai au moins.
Vous aurez le conseil.
Une qualité d'après vos critères, en fait.
Exactement.
Voilà,
en même temps, on n'est pas dans le matériel, c'est pas nous qui le construisons, mais on le teste, on a de l'expérience, on a du retour, et on est toujours très clair avec nos clients. On n'est pas là pour se faire du sucre sur nos clients, on est là pour vivre de notre travail.
Et à telle preuve qu'il suffit que vous disiez on vient de la part des Grignoux et vous avez 30% sur tout le matériel.
Non.
C'est ce que l'avait dit, non ?
Et le sourire du patron qui vous offrira peut-être une bouteille de limonade France.
Allez, on vous dit à bientôt.
Non, on vous dit pas à bientôt, on vous dit à très lointain, puisque on prend 15 jours de vacances. Donc la semaine prochaine, c'est pas nous. Et la semaine d'après, c'est pas encore nous. Il y aura sûrement une émission
de remplacement.
Voilà.
Allez, salut.
Oh, merci Bibi.
Merci de m'avoir reçu.
Au revoir.
Keep on lying on the telephone. He says, wait a minute, don't hang up. I never thought I'd say this to anyone. I think I'm gonna pray for you. I think I'm gonna pray for you.
for you.